Regardez en 2 Chroniques 33 avec moi. Chapitre 33, verset 10. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple. Manassé était un très, très, très mauvais roi. C'était un meurtrier. Il a brûlé au feu les Écritures. Il a tué des gens. Et pas seulement pendant 2, 3 ou 20 ans, mais pendant 52 ans. Il était un homme très méchant. Étudiez-le juste si vous voulez voir à quel point, mais c'est vraiment incroyable. À quel point il était méchant et comment il a tué son propre peuple. Et c'était un idolâtre. Il a institué des idoles, il a utilisé la sorcellerie. C'était un très très mauvais roi. J'étais dans la plus profonde des ténèbres. Verset 11. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers, et le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Et lorsqu'il fut dans la détresse, voilà ce qu'il a fait. Il implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. C'est merveilleux. C'était un très, 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 très mauvais roi. Il a été emmené en captivité, il s'est humilié grandement, il s'est humilié lui-même devant Dieu. Il a crié à Dieu et Dieu l'a pardonné et l'a ramené. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ce soir, on va parler de louanges et d'actions de grâce et on va utiliser 3 histoires de l'Ancien Testament pour nous encourager. On va faire ça, on va se réjouir. Regardez maintenant en Romains 12 avec moi. Je veux juste partager une chose avec vous, verset 15, Romains 12, verset 15. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Et c'est merveilleux dans l'Esprit de Dieu, comment on peut faire les deux. On peut pleurer et on peut aussi se réjouir. On peut être très triste, très brisé dans l'esprit. Mais on peut aussi se réjouir ensemble. Et aussi on pleure ensemble. Et ça vient de Dieu, alors qu'on vit ensemble. Une des familles de notre église, Scott Lincoln, est mort dimanche soir dans un accident de voiture. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ça. Il était avec son frère Tim. Il était un diplômé de l'Institut biblique à Lenox. Et la famille Lincoln a une grande histoire dans notre église. Et ces derniers jours, il y a des membres du corps qui sont allés avec la famille et ont prié pour eux, les ont aimés. Il a laissé derrière lui 3 enfants et sa femme Tina. Et je veux juste que vous sachiez ça. Gardez-les en prière. Parfois, vous vous réveillez de la nuit, juste vous pensez et vous priez et vous pleurez un peu en vous identifiant à la famille. Donc, on a les deux. On a la tristesse de la perte, mais aussi on peut se réjouir parce qu'il est au ciel et que les voies de Dieu sont parfaites. Et on prie. On va juste prendre quelques minutes pour prier pour la famille maintenant. Pour Colin Kendall Stinger. Et aussi le bébé. Père. Père qui es aux cieux. On prie que tu donnes de la force, de la paix, une direction dans les pensées, du réconfort à cette belle famille. Encourage-les, fortifie-les, bénis-les, guide-les. Aide-nous à mettre nos grands bras autour d'eux pour qu'ils se sentent aimés, qu'ils sentent que Dieu est bon, que Dieu est merveilleux, que Dieu est là et qu'il se soucie d'eux. Dirige-nous, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos pensées. Bénis cette famille plus que nous ne pouvons même l'imaginer, alors qu'on les entoure avec amour. Édifie-les, aide-les, encourage-les, de toutes les manières, au nom de Christ. Amen.
On va parler de la louange et de l'action de grâce ce soir. Donc, cette famille, en pensant au match de foot le week-end dernier. Qui a donné la prophétie ce soir-là que David allait tuer Goliath? Est-ce que c'est Pasteur Steve? Avons-nous un prophète parmi nous? Voyez-vous, les fans de New Orleans, écoutez, peu importe. Regardez en 1 Pierre 2. La louange, qu'est-ce que c'est que la louange? Nous avons aussi d'avoir Franck de Philadelphie. On a aussi un frère du Pakistan qui est avec nous ce soir. Il est là. Il vient de là-haut, du Pakistan. Est-ce que c'est pas merveilleux? Il a juste allé sur Internet, il a suivi les directions et il est arrivé ici. 20 ou 30 minutes après la fin du culte, Pasteur Joseph va nous montrer une présentation sur l'Irak. Il a voyagé dans 4 villes irakiennes et au Kurdistan au nord de l'Irak. Et donc ça sera ce soir, avant l'Europe. Est-ce que vous êtes prêts? Donc 1 Pierre 2. Verset 9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, un peuple particulier en anglais. Le nom particulier, ça peut avoir un sens particulier, mais ce n'était pas le cas. Autrefois, ça veut dire des gens vraiment uniques et spéciaux. On est vraiment ces gens-là. On est très différents. Et voici une des raisons. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La louange. Un écrivain a dit: la louange est une réponse naturelle et nécessaire pour vraiment se réjouir de l'objet de la louange. Par exemple, quand on regarde un match de foot à la télé, c'est une réponse naturelle de louer quand quelqu'un a très bien joué. Et on a vu ça. Je veux dire, j'ai vraiment vécu ça le week-end dernier. J'étais carrément par terre tellement j'étais impressionnant. Et je criais à ma femme, mais regarde, c'est incroyable. Oui, les fans de Nouvelle-Angleterre, remettez-vous, remettez-vous. Et maintenant, criez waouh après un saut acrobatique, qui n'est pas seulement naturel, mais c'est nécessaire pour vraiment se réjouir du spectacle qu'on observe. Si vous ne croyez pas que c'est nécessaire, la prochaine fois que vous regardez un match de foot, essayez pas de l'exprimer. Vous allez vite vous rendre compte que vous n'allez pas du tout vous amuser à ni apprécier les actions comme vous le feriez si vous aviez la liberté de vous exprimer vous-même en louange et en expression. Quelque chose vous est arrivé, nous louons Dieu. Quelque chose s'est passé. On était dans les ténèbres. Et c'est l'histoire qu'on va partager ce soir dans une minute. Un autre écrivain a dit, ce n'est pas des compliments quand les travailleurs se disent de l'un ou l'autre comme ils sont beaux. C'est parce qu'ils ont besoin de s'en rappeler. Mais la lumière est incomplète. Jusqu'à ce qu'elle soit
exprimée.
C'est frustrant de découvrir un nouvel auteur et pas être capable de dire à tout le monde comme il est
bon.
Et c'est terrible quand on est dans un beau paysage, là, puis il y a découvert une vue extraordinaire et pas pouvoir la partager avec les autres autour de soi parce qu'ils ne sont pas du tout intéressés par ça. Ou d'entendre une bonne blague et ne pouvoir la partager avec personne parce que personne n'est intéressé. Regardez en Lévitique 16. Verset 20. 21. Le bouc émissaire. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Une tendance à blâmer les gens. Qui est la première personne qui a été blâmée dans la Bible? Qui c'était? Ève. J'ai péché. Et donc je blâme quelqu'un. Dans mon bureau, parce qu'il s'est passé quelque chose, et j'ai cherché un bénéfice. C'est lui qui a fait, la machine qui était cassée. C'est lui qui m'a dit le cœur. Je n'avais pas dormi assez. Je ne savais pas ce que je faisais. Mais je crois bien que tu as déjà fait ça plusieurs fois toi-même. Tu es pire que moi. Un bouc émissaire. Mes enfants, mon patron, ma femme, ma voiture, mon travail, mon âge. Et on cherche toujours à nous décharger sur quelque chose ou sur quelqu'un. Mais Dieu nous a donné un bouc émissaire. Et Aaron devait poser ses mains sur lui alors qu'il venait dans le tabernacle. Il devait poser ses mains sur la tête du bouc et confesser sur lui les iniquités du peuple. Et ensuite, un homme qui avait cette charge devait l'emmener dans le désert et revenir. Il emmenait le bouc au désert et il le laissait aller et il était parti. Et on a un bouc émissaire. Chaque chose pour laquelle on peut avoir tendance à chercher un blâme, chaque chose qu'on a dite pour blâmer qui que ce soit, à propos de quoi que ce soit, y compris lui-même, toutes ces choses, toutes, elles ont été portées par Christ. Il est devenu, il n'a pas simplement pris nos péchés, mais il est devenu péché. La mort, il a aussi traité le problème de la mort. Et de façon dont il est devenu une colonne de lumière entre le ciel et la terre. Et la colère de Dieu envers nous l'a frappé lui. Et il a pris pour nous la colère de Dieu. Et en fait, on peut dire que c'est Jésus qui l'a fait. L'adultère, c'est Jésus qui l'a fait. C'est incroyable. Est-ce qu'on peut dire ça? Il n'avait pas de péché, il était Dieu, il est devenu un homme, et il est devenu péché, juste comme s'il avait commis tous nos péchés. Tous nos péchés ont été mis sur lui. Et maintenant, au lieu de blâmer les autres, on a un esprit saint en nous. Toute l'âme a été mise sur lui. Et c'était tellement injuste, et tellement inhabituel, et incroyable. On a entendu l'histoire d'une femme qui est venue vers Napoléon pour qu'il pardonne son fils. Et Napoléon a dit, la justice demande sa mort. Et la femme, sa mère lui a dit, c'est pas la justice que je demande, c'est la miséricorde. Mais Napoléon a dit, il ne mérite pas la miséricorde. Et elle a répondu, monsieur, ça ne serait pas de la miséricorde s'il la méritait. La miséricorde, c'est tout ce que je demande. Et il a dit, très bien, donc je montrerai la miséricorde. Et il l'a pardonné. Where does praise come from? La louange vient-elle? J'étais coupable. J'étais une personne qui blâmait les autres. Quelqu'un d'insécure, qui ne sentait pas en sécurité. Qui était blessé. Et j'ai trouvé un bouc émissaire qui a tout pris. Et maintenant, je veux dire que c'est Jésus qui l'a fait. Et même si c'est injuste, c'est limite, c'est vrai, c'est ce que Dieu veut. Parce que dans les psaumes, il est dit, c'est le plaisir de Dieu que son serviteur prospère, que son désir de nous donner non pas ce qu'on mérite, mais une vraie miséricorde. Comme notre Dieu est grand, notre louange va être une réflexion de la grandeur de notre Dieu. Exactement comme dans un match de foot quand on dit, c'est merveilleux.
C'est merveilleux.
You know, something in nature, or as we read in this, we read
comme quand on lit dans la Bible, on lit que Dieu nous a donné une bouc émissaire bien réel. Il l'a fait. Il l'a fait. J'ai reçu la miséricorde, pour rendre louange à Dieu. Et je ne peux même pas croire. J'étais aussi coupable que Manassé et j'ai trouvé miséricorde et grâce. C'est incroyable. Ça n'est pas juste, mais c'est justement ça la question. On ne vit pas dans la médiocrité, on vit dans la louange envers le Dieu de toute grâce et de toute miséricorde qui nous a trouvés et nous a remplis et nous a parlé. Et maintenant, on aime partager ça. C'est pour ça qu'on vient ici. Je suis tellement béni par ce que Dieu fait et je suis tellement encouragé par notre futur. Mais tout ça, ça tourne autour de cette réalisation merveilleuse. Il est dit dans les psaumes, il y en a plusieurs. Regardez psaume 22. Je vais être enthousiaste dans un moment. Pour le moment, je me contrôle. Psaume 22, c'est à propos du Messie. Il est mort dans la première partie du psaume. C'est le Messie qui meurt, qui souffre, qui est sur la croix. Il est entouré par les taureaux de Bazan. Ses mains et ses pieds sont percés. Et tout d'un coup, au verset 22, verset 23, il change complètement. « Je publierai ton nom parmi mes frères. C'est nous. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. C'est nous. » Dieu nous montre les richesses de sa gloire, les richesses de sa grâce, les richesses de sa miséricorde. Il nous a montré la nature incroyable de qui il est. Et on réalise de quel esprit on est. Et maintenant on réalise ça et on marche là-dedans. Notre cœur est fixé sur Dieu. Notre cœur est guéri et on peut chanter des louanges à Dieu. Je magnifierai le Dieu en tout temps. Psaume 34, verset 1. Au milieu de la congrégation, verset 23. Je le célébrerai. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le, vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Il n'a pas méprisé notre affliction. Notre culpabilité, notre insécurité, notre honte, tout ce qui était méchant, sale, pourri dans notre nature humaine. Chacun d'entre nous, on ne peut même pas avoir une impression superficielle de propre justice. On a tous péché. Est-ce que quelqu'un ici a confessé son péché aujourd'hui? Est-ce que ça vous est arrivé aujourd'hui? Si nous confessons, si nous ne le faisons pas, nous ne marchons pas dans la lumière. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Pour qu'on puisse le louer dans nos cœurs. Comment ça s'exprime? Regardez en 2 Samuel pour notre deuxième histoire. 2 Samuel chapitre 9. Je suis prêt à m'enthousiasmer. De Samuel 9, Mephibosheth, deux choses dans ce chapitre. Premièrement, quand la nourrice a pris l'enfant et qu'elle s'est enfuie avec lui, elle l'a lâché. Est-ce que c'était sa faute? Quand la nourrice a pris l'enfant, le fils de Jonathan, et qu'elle s'est enfuie avec lui et qu'elle l'a lâché, ses pieds ont été brisés et n'ont pas guéri correctement. Et du coup, il n'a jamais pu marcher correctement. Il a été boiteux toute sa vie. Est-ce que c'était sa faute à lui? La réponse est non, ça n'était pas sa faute. Quelqu'un d'autre l'a fait. Et dans cette vie, quelqu'un d'autre va vous causer des problèmes. Toujours. Absolument. Quelqu'un d'autre l'a fait. Vous êtes une victime innocente. Et c'est ce qui est arrivé à Mephibosheth. Il était une victime innocente d'un accident. Mais il n'y a pas d'accident avec Dieu. Mais Dieu était avec lui. Parce que son père était Jonathan. Et ça n'était pas non plus sa décision. Quand Jonathan aimait David et qu'ils étaient amis, ils ont fait une alliance et il a dit « Je te bénirai, tu es mon ami pour toujours. Toi et ta semence. » Et quand David a découvert l'existence de Mephibosheth, il l'a amené dans son palais et il a mis la table et il lui a dit « Ne t'inquiète pas de ton péché. J'ai dresser une table pour toi pour le reste de ta vie. Est-ce que Mephibosheth a produit ça? Non. Il n'a pas produit son infirmité, mais il n'a pas produit non plus la table sur laquelle il a été nourri jusqu'à la fin de sa vie. Mais tout cela a été pourvu dans le plan parfait de Dieu. Les pieds brisés dans le plan de Dieu et la miséricorde abondante aussi dans le plan de Dieu. Et c'est la même chose avec nous. On vit dans une vie, quelque part on n'a rien choisi, on n'a pas choisi de naître. Il y a beaucoup de choses dans notre vie qui nous arrivent et qui ne sont pas liées aux décisions qu'on a prises, mais Dieu dit « Je suis Dieu ». Et je veux que vous sachiez que je suis un Dieu merveilleux, un grand Dieu, un Dieu qui pourvoit pour vous. Vos pieds sont peut-être blessés, mais mes voies ne sont pas vos voies. C'est mon plan, vous ne connaissez pas mes pensées, mais je vais vous révéler ma table, ma miséricorde, mon esprit, ma nature, qui je suis. Et c'est ce que Mephibosheth a eu et c'est ce que nous avons, vous et moi. Et quand on le réalise, ça amène forcément des louanges vers Dieu. Et on dit, d'accord Seigneur, j'ai des pieds blessés, mais je peux te connaître. J'ai une table dans la présence de mes difficultés. Paul avait une écharpe dans la chair et il a prié trois fois. Une écharpe dans sa chair, trois prières. Mais il avait une table de grâce. Et beaucoup de fois, on est comme effrayé. On préférait que notre vie soit à notre manière plutôt que de connaître la grandeur de Dieu. Mais quand on attrape une balle dans la zone près du but, c'est juste extraordinaire. Et quand je vois ça, je suis complètement enthousiaste. Mais regardez comme notre Dieu est merveilleux. Il a pourvu pour nous. Il nous a oints. Il nous parle. Il nous aide. Et peut-être on n'est pas en train de crier, mais je pense que des fois on devrait. On devrait crier. Je crois que les louanges et les actions de grâce, on devrait... Encore une dernière chose ici, à propos des actions de grâce. Jésus a guéri 10 lépreux et ils sont partis. Il leur a dit d'aller. Et alors qu'ils s'en allaient, peut-être 2 kilomètres, 3, 4, ils ont été guéris. Et ils ont continué à aller, mais ils ne sont pas revenus. Un seul est revenu. Et Jésus a dit, et les 9 autres? Est-ce que vous n'étiez pas 10? C'est une grande histoire. Ça me parle. Peut-être je suis seulement 10% reconnaissant, 10% aussi reconnaissant que je devrais l'être. Peut-être seulement un jour sur 10. Peut-être que je n'apprécie qu'un dixième de ce que Dieu m'a donné. Et je ne dis pas ça pour me rendre coupable ou pour me condamner, mais juste pour qu'on réalise ce que c'est que la nature humaine. Psaume 119, 25. Notre âme est attachée à la poussière. On a tendance à plus souvent parler de ce qui manque, de tout ce qui est triste ou pas drôle, ou de mes pieds brisés. Je parle plus souvent des choses que je blâme. Mais Jésus me dit, attends une minute, j'ai fait tout ça, j'ai pris tout ça, c'est moi qui suis coupable. Est-ce que tu as bien compris? J'ai tout pris sur moi, c'est moi qui suis coupable. Je suis devenu péché. Alors, comment tu te sens en sachant ça? Et on entend ça et on dit, waouh! Tu veux dire moi? Jésus, tu veux dire moi? Tu parles vraiment de moi? Mon cœur est guéri. Tôt, dès le matin, je te louerai. Tôt dans la journée, tôt dans ma vie. Il y a tellement de choses pour lesquelles je peux être reconnaissant. On a été oint par sa grâce. On a trouvé sa miséricorde. Il nous a appelés avec un appel saint. Il nous a équipés avec tout ce dont nous avions besoin. Il nous a donné les promesses excessivement grandes et précieuses. J'ai un ami en Russie. Il avait un très vieux kopeck qui datait de 1794. Et il me l'a montré. J'ai dit, tu...
Est-ce
que tu me le donnerais? Il a dit non. J'ai dit, bah, on n'est pas des frères. Et l'autre lui a dit, oui, on est des frères, mais fais bien attention. Il le mettait sous son oreiller la nuit. Ça me semblait un peu étrange. Mais c'était précieux pour lui. Il disait, oh, je peux jamais le si je le perds, je ne pourrai jamais le remplacer. C'est mon copec russe. C'est important pour moi. C'est la même chose avec des meubles d'antiquité. Le piano de Mozart. Vous ne pourrez jamais en trouver un autre. Vous ne pourrez jamais le reproduire. C'est le seul, l'unique. La coupe dans le musée. Elle est là, elle est très précieuse. Elle ne pourra jamais être remplacée. Mais on a des promesses excessivement grandes et précieuses. Il m'a promis la vie éternelle. Est-ce que vous vous rendez compte? Il m'a dit qu'il ne m'abandonnerait jamais, qu'il ne me laisserait jamais. Tous mes péchés ont été effacés. Qui peut me dire ça? Et dans ma vie, j'ai une table, c'est une table que Christ a dressée pour moi. Et ça, on pourrait en parler pendant toute la journée. Que ces rachetés le disent. Je suis racheté et je le dis. Psaume 107, verset 2. On a des louanges, les louanges de Dieu. On a des promesses qui sont merveilleuses. Que votre oui soit oui et votre non soit non, car tout ce qui est de plus vient du mal. Et je pense que parfois on parle trop d'une façon négative. Et du coup la louange diminue comme ça. Et vous avez vu le match de foot dimanche, c'était incroyable. Mais si après ça, le coach se met à critiquer, l'entraîneur se met à critiquer l'équipe, il va gâcher complètement la joie de la victoire. Si on passe le tournant de la route et tout d'un coup on voit une grande vallée, un paysage magnifique, et là c'est bien au-delà de ça, c'est une réalité qui est au-delà de tout ce qui existe sur la terre. Comment notre Dieu est grand. Et comment on peut retourner à parler de notre négativité dans ces cas-là? Comment nos conversations peuvent devenir de basse qualité? On préfère être auprès des gens de Dieu, du peuple de Dieu, de chanter des chants, de citer la parole, d'être édifié. Ça ne m'intéresse pas de vivre dehors dans le désert. Le bouc a été emmené dans le désert par un homme qui en avait la charge, qui représente Christ. Mais il est revenu du désert. Et on est assis avec cet homme. On est assis avec Lazare, avec Marie, avec Marthe. Et on a communion ensemble autour de la table. On a une fête d'anniversaire pour Lazare. Tu es mort. Mais lui, Jésus. T'as ressuscité. Lazare était mort et maintenant il est vivant. Et sérieusement, vraiment. On peut être un peu fou. On peut. David a dansé en 2 Samuel 6. David a dansé devant le Seigneur. Applaudissez-vous son peuple, criez à Dieu. Et si on peut faire ça pour un match de foot, on peut vraiment le faire pour l'Évangile. Réalisez à quel point la grâce est incroyable, la grâce qui nous a été donnée. Quel futur, quel Dieu, quel message, quel ministère, quel esprit, quel futur, quelle vie nous vivons. Nous avons tout ça et nous louons Dieu. Peut-être de temps en temps, ce dont nous avons besoin, c'est juste d'être plein de repos et de louanges avec un cœur léger et de dire « Je veux plus de ma négativité, je veux chanter un chant nouveau. » Même si je trébuche, il me relèvera toujours. Les espions, les 10 espions ont dit, oh là là, on n'est pas capable d'entrer dans le pays promis. Il y a des géants. Et Caleb les a regardés en disant, quoi ? On peut y aller maintenant. On peut y aller maintenant. Et il avait raison. On peut. Et même s'il y a 10 personnes qui disent non, on ne peut pas, il y en aura toujours 2 qui seront remplis de la vérité et de la doctrine et qui auront la louange dans leur cœur et dans leur bouche. Et on ne murmure pas dans nos maisons et dans nos voitures. On chante des louanges alors qu'on quitte la maison de Dieu. J'étais heureux quand on m'a dit, venez dans la maison de l'Éternel. Il y a peut-être parfois des gens qui ont l'impression de ramper jusqu'à la salle de culte, mais ça ne m'arrive pas. Moi j'arrive, j'ai l'impression que j'ai envie de bondir, j'ai envie de sauter de joie, parce que je viens lui amener des louanges pour toute sa miséricorde et toute sa grande grâce qu'il m'a donnée. C'est comme ça que ça doit être. Amen. Priez avec moi. Et l'équipe de louanges est merveilleuse aussi.
Okay, pray with me, please. If you're here tonight,
si vous êtes ici ce soir et que vous voulez accepter Jésus dans votre cœur, oh, si vous ne l'avez pas, mettez vos pieds brisés sous la table. Vous avez un vrai bouc émissaire. Jésus vous aime. Dites à Jésus, s'il vous plaît. Viens dans mon cœur, je t'accepte. Et si vous le recevez dans votre cœur, il vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit en vous en croyant en Christ. Est-ce que vous voulez lever la main si vous êtes en train de demander à Jésus d'entrer dans votre cœur? Sur Internet, s'il y a quelqu'un, dites-le s'il vous plaît. Jésus, sauve-moi.
Entendons.
Et ici ce soir, si vous voulez être encouragé dans votre cœur, allez-y, allez de l'avant. Que ça devienne une habitude, qu'il n'y ait rien de négatif dans vos confessions. Mais demandez des conseils pieux. Présentez vos requêtes à Dieu, et Dieu va vous conduire dans la voie des actions de grâce et de la louange.